VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 23 décembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia, tout d'abord les titres. Au Mali, l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus dans le pays envoie des résolutions, selon le ministre ivoirien de la Défense, après la visite d'une délégation officielle à Bamako. En Côte d'Ivoire, le verdict de l'attentat djihadiste contre Grand Bassam sera rendu le 28 décembre. Conflit dans l'est de la RDC, des experts de l'ONU pointent la responsabilité du Rwanda dans un nouveau rapport. Juste avant Noël, une tempête provoque froid polaire et fortes perturbations aux États-Unis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, signature hier, jeudi, d'un mémorandum pour une sortie de crise. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Lamissa Sangaré.
Les deux visiteurs du jour, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Tene Brahima Ouattara, et celui des Affaires étrangères du Togo, sont sortis satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé par le président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta. Les échanges ont porté principalement sur l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis près d'un an. À quand la fumée blanche? Aucune information là-dessus. À la fin de l'audience, le ministre ivoirien a parlé des malentendus en voie de résolution. Les deux parties se sont dit prêts à surmonter les malentendus tout en préservant les liens de fraternité entre eux. Plus tôt dans la journée, la délégation s'est réunie avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga et le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Ensemble, ils ont élaboré le protocole d'accord que les deux parties ont signé pour un dénouement heureux. Le ministre des Affaires étrangères du Togo l'a co-signé également. Il s'est ensuite félicité de la volonté de chacune des parties à faire prévaloir la paix et la cohésion dans la sous-région. Il promet d'y rendre compte au président Faure Gnassingbé, médiateur en chef en charge du dossier. Lamissa Sangaré, Bamako, pour VOA Afrique.
Mohamed Cissé, président du GPS Mali, groupe des Patriotes Solidaires Mali, une plateforme d'associations et de partis politiques, a réagi en ces termes après la série d'entretiens que les visiteurs ivoiriens et togolais ont eus avec les autorités maliennes. On écoute Monsieur Cissé.
À la sortie de ces différentes audiences, ils ont marqué leur satisfaction et leur soulagement à la bonne disposition et à l'accueil que les autorités maliennes leur ont accordé. Aussi, finalement, être d'accord sur un certain nombre de points et jusqu'à la signature d'une convention pour la libération des 46 militaires ivoiriens. Et la partie malienne, à travers le ministre des Affaires étrangères, a aussi noté sa satisfaction et son soulagement par la démarche des frères ivoiriens. Nous souhaitons et nous espérons qu'il y ait très rapidement une issue heureuse suite à cette crise qui ne devrait pas avoir lieu entre nos deux pays. En tant que responsable politique, c'est aussi un soulagement dans le sens de la gestion d'une crise parce que le peuple malien a d'autres défis à relever et a aussi besoin de ses amis, de ses voisins, de ses frères. Donc, si on parvient à gérer cette crise, ce sera un soulagement et une solution aussi de plus pour la crise multidimensionnelle à laquelle le Mali est confronté.
Mohamed Cissé, président du GPS Mali, groupe des Patriotes Solidaires Mali. En Côte d'Ivoire, le verdict de l'attentat djihadiste dans la ville balnéaire de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts en 2016, sera rendu le 28 décembre. C'est ce qu'a annoncé hier le président du tribunal criminel d'Abidjan à l'issue des plaidoiries de la défense. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les avocats des quatre accusés présents physiquement au procès ont réclamé l'acquittement pour leurs clients. Ils disent que l'accusation manquait de preuves quant à leur complicité avec les auteurs de l'attaque, estimant que leurs clients étaient des boucs émissaires. Mercredi, le procureur de la République, Richard Hadou, avait requis la perpétuité contre les quatre hommes ainsi que contre plusieurs cerveaux de l'opération absents au procès. Tous sont accusés d'actes terroristes, assassinats, tentatives d'assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et de complicité des 10 faits. Les quatre accusés présents à l'audience, Antao Ag Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Kunta, Mohamed Sissé et Hassan Bari, sont soupçonnés d'avoir été des complices de cette attaque en aidant les cerveaux de l'opération dans le repérage, notamment des accusations qu'ils rejettent. L'attaque de Grand Bassam de 2016 a été revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était la première survenue en Côte d'Ivoire.
Le Rwanda se retrouve accusé dans un nouveau rapport des Nations Unies d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. Ce rapport, non encore publié mais consulté jeudi par l'AFP, intervient alors que les affrontements se poursuivaient jeudi à une soixantaine de kilomètres au nord de Goma entre des milices et le M23. Nani Talani fait le point.
Dans ce document, des experts mandatés par l'ONU affirment avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des RDF, forces de défense rwandaises, sur le territoire de la RDC, au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Interrogé sur ce rapport, le département d'État américain a exprimé sa préoccupation et a appelé toutes les nations à respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, a déclaré que Kigali n'avait pas vu la substance du rapport ni les preuves sur lesquelles il était fondé. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas vu les preuves matérielles, tant qu'on n'a pas examiné ces soi-disant preuves, il est difficile de se positionner, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté, nous ne soutenons pas le M23, nous n'en avons pas besoin. Le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de son peuple. Selon le groupe d'experts, l'armée rwandaise a lancé ses opérations militaires pour renforcer le M23 et contre les FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, un groupe armé majoritairement Hutu, fondé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis, en 1994 au Rwanda. Le rapport détaille également comment, depuis mai 2022, des groupes armés du Nord Kivu, dont les FDLR, ont collaboré sur les différents fronts avec les FRDC, c'est-à-dire l'armée congolaise, et reçu également un soutien matériel de leur part.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a félicité hier Benjamin Netanyahou, qui a annoncé la veille être en mesure de former un gouvernement très à droite, notent les observateurs. Jean-Roger Bion fait le point.
Le secrétaire d'État américain a appelé jeudi, lors d'une conférence de presse, à ce que les deux pays travaillent ensemble afin d'apporter des mesures de sécurité, d'opportunité, de prospérité et de dignité aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens. Interrogé pour savoir si les États-Unis vont travailler avec les plus radicaux du gouvernement israélien, M. Blinken a répondu qu'ils vont juger sur la base des politiques mises en place, non pas sur les personnalités. Les ténors de l'extrême droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir seront respectivement en charge des colonies en Cisjordanie et de la sécurité nationale. Plus de 475 000 colons juifs vivent en Cisjordanie. Bezalel Smotrich a déjà annoncé les couleurs avec son projet de légaliser des colonies dites sauvages, c'est-à-dire non reconnues par Israël. Et l'arrivée d'Itamar Ben-Gvir à la tête de la police inquiète en Cisjordanie après une année déjà tendue.
Dans une grande partie des États-Unis, des températures glaciales et de fortes chutes de neige ont provoqué l'annulation ou le retard de milliers de vols en cette période des fêtes. Des conditions très dangereuses pour se déplacer avertissent les autorités. Des millions d'Américains doivent prendre les routes et les aéroports pour les fêtes de fin d'année. S'il vous plaît, prenez cette température extrêmement au sérieux, a exhorté hier le président Joe Biden. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence, comme l'Oklahoma et le Kentucky. Plus de 1700 vols ont été annulés hier par les aéroports de Chicago et de Denver. Les régions du Midwest et des Grands Lacs seront touchées en fin de semaine avec du blizzard. La Minute Éco, Lionel Gahima.
La Banque centrale du Nigeria a relevé de manière significative ses plafonds de retrait hebdomadaires suite au mécontentement des usagers. Elle avait initialement imposé ces plafonds dans le but de limiter le volume de liquidités dans l'économie nationale. La banque s'inquiétait aussi de la contrefaçon des billets et des montants colossaux des rançons versés aux bandits et kidnappeurs. La limite maximale de retrait hebdomadaire, tous les moyens confondus des individus et des entreprises, devra être respectivement de 500 000 naira, un peu plus de 1 000 euros et 5 millions naira, a fait savoir la Banque centrale nigériane dans un communiqué mercredi. Le patron de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabi, assure que le passage maritime stratégique n'est pas à vendre. Le canal, qui voit passer environ 10% du commerce mondial, est l'une des premières sources de devises pour le pays. L'annonce par le Parlement d'un projet de créer un fonds du canal de Suez pour exercer différentes activités économiques a fait craindre aux Égyptiens une remise en cause de la souveraineté nationale de l'ouvrage. Un juge de New York a ordonné la libération conditionnelle de Sam Bankman, fondateur de la compagnie de crypto-monnaie FTX, contre une caution de 250 millions de dollars en attendant son procès pour fraude à la suite de l'effondrement spectaculaire de son entreprise. Le juge Gabriel Gorenstein a pris cette décision jeudi lors d'une audience de présentation des chefs d'accusation devant un tribunal fédéral de Manhattan. Sam Bankman devra porter un bracelet électronique pendant qu'il est en liberté provisoire. Extradé des Bahamas, il est arrivé à New York mercredi.
Les sports à présent avec Nanit Talani.
Pour la deuxième journée, les Fennecs locaux rencontreront l'Éthiopie le 17 du même mois à 19h temps universel, tandis que pour leur troisième match, ils affronteront le Mozambique le 21 décembre. Dans le groupe B, composé de la RDC, de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, les matchs se joueront au stade du 19 mai à Annaba. Dans le groupe C, le Maroc, le Soudan, Madagascar et le Ghana tenteront d'obtenir une place au second tour. Ces équipes joueront au stade Chaïb Amlaoui de Constantine. Quant au dernier groupe E, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Niger devraient se battre pour leur billet pour les quarts de finale. Leurs matchs sont programmés au stade Miloud à Défi d'Oran. Les matchs du premier tour des quatre groupes se termineront le mardi 24 janvier, avant un repos de 2 jours pour les équipes qualifiées pour le second tour. La compétition reprendra le 27 janvier avec les matchs des quarts de finale qui se joueront sur 2 jours, 2 matchs par jour. Les demi-finales sont prévues le mardi 31 janvier à Alger et Oran. Le match de classement se jouera le 3 janvier, tandis que la grande finale se jouera le samedi 4 janvier au stade Nelson Mandela de Baraka à Alger. Le Brésil occupe toujours la tête du classement mondial FIFA malgré son échec à la Coupe du Monde du Qatar. Les Brésiliens dévancent d'une courte tête leurs rivaux de toujours, les Argentins, qui sont deuxièmes. La France se classe troisième, suivie de la Belgique, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Croatie, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne, qui est dixième. L'Afrique pointe à la 11e place avec les Lions marocains qui ont fait un grand bond de 11 marches après leur sortie historique en demi-finale du Mondial face aux Français et leur 4e place au Qatar. Les Tunisiens, autres mondialistes africains, viennent loin derrière en 30e position, suivis des mondialistes camerounais 33e, des Nigérians 35e et des Égyptiens 39e. bons résultats de Team Africa qui, à la faveur de son passage au Qatar, est passé de la 16e à la 13e place.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président Volodymyr Zelensky s'est adressé mercredi aux parlementaires américains et a rencontré le président Joe Biden lors de sa première sortie à l'étranger depuis le début de l'invasion russe de son pays. Il a plaidé pour que Washington maintienne son aide militaire et économique à l'Ukraine. Patsy Uedakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
Le président Joe Biden a accueilli son homologue Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche lors d'une visite surprise destinée à envoyer un message au président russe, Vladimir Poutine. Les États-Unis seront là pour l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Le président Joe Biden.
Le président russe Vladimir Poutine essaie d'utiliser l'hiver comme une arme, mais le peuple ukrainien continue d'inspirer le monde. Je le pense sincèrement, pas seulement nous inspirer, mais inspirer le monde avec son courage et la façon dont il a choisi sa résilience et sa détermination pour l'avenir.
Zelensky a remercié Biden et lui a remis une médaille de la Croix du Mérite militaire appartenant à un soldat ukrainien, capitaine d'une batterie IMARS donnée par les États-Unis. Volodymyr Zelensky, président ukrainien.
Il est très courageux. Et il a dit, donnez-le à un président très courageux. Je veux vous donner ça, la Croix du Mérite militaire.
Pendant que M. Zelensky foule le sol américain, les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 1,85 milliard de dollars pour l'Ukraine et des nouvelles livraisons d'armes avec, pour la première fois, la fourniture du système de défense anti-aérien Patriot qui va aider à protéger contre les missiles russes. Une décision que Moscou a qualifiée de provocatrice. Mercredi, M. Poutine a réitéré que la Russie n'avait rien à se reprocher dans cette guerre. Vladimir Poutine, président russe.
Au contraire, c'est les résultats de la politique d'autres pays, de pays tiers, qui ont toujours œuvré dans ce sens vers la désintégration du monde russe.
Le Kremlin a dénoncé jeudi une absence de volonté d'écouter la Russie après la visite du président ukrainien, preuve pour Moscou que Washington mène une guerre indirecte en Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, dit constater avec regret que ni le président américain ni le président ukrainien n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie. M. Zelensky a été reçu en euros à Washington. Prononçant un discours sous les applaudissements devant une réunion conjointe du Congrès, il a lancé un appel aux parlementaires qui discutent une nouvelle aide d'urgence de 45 milliards de dollars à l'Ukraine, ce qui porterait le total de l'aide américaine en temps de guerre à plus de 100 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky, président ukrainien.
Your money is not charity.
Votre argent n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la justice mondiale et la démocratie que nous gérons de la manière la plus responsable.
Un récent sondage du Chicago Consul révèle que 65% des Américains soutiennent l'aide à l'Ukraine. Ils sont partagés entre un soutien pour le temps qu'il faudra et le souhait que Washington exhorte Kiev à accepter la paix le plus rapidement possible.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La commission de la Chambre des représentants des États-Unis, chargée d'enquêter sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, a recommandé une poursuite criminelle contre l'ancien président Donald Trump. La Maison-Blanche tente d'éviter de donner l'impression qu'elle prend pour cible un adversaire potentiel du président Biden en 2024. Reportage de Patsy Widakuswara. Le récit est de John Linden.
We love Trump! We love Trump!
À deux semaines du deuxième anniversaire de l'assaut des partisans de Donald Trump sur le Capitole, un chapitre sans précédent de l'histoire des États-Unis s'ouvre. Sept législateurs républicains et deux démocrates ont recommandé des chefs d'accusation criminels contre l'ancien président Trump pour son rôle dans la tentative de faire annuler la victoire de Joe Biden aux élections de 2020. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous allons être très, très prudents pour ne pas du tout politiser ce processus. Cette administration et le département de la justice conduisent les enquêtes criminelles en toute indépendance, d'une manière libre de toutes sortes d'interférences politiques, de toute interférence.
Pour sa part, le ministre de la Justice, Merrick Garland, doit décider s'il doit agir sur la base des recommandations de la commission du 6 janvier. Peter Lodge dirige le projet d'éthique en communication politique de l'Université George Washington.
La meilleure chose que le président Biden puisse faire est ce qu'il fait, et qui est de dire, vous savez, la commission de la Chambre a un dossier persuasif. De mon point de vue, c'est très clair. Je partage leurs conclusions. Nous devons continuer à défendre et promouvoir la démocratie, et il revient au ministère de la Justice d'agir, et il faut lui laisser la voie libre.
Le ministre de la Justice est nommé par le président et confirmé par le Sénat. Diverses mesures ont renforcé l'indépendance de son département suite au scandale du Watergate. Dans cette affaire des années 70, le président Richard Nixon avait tenté d'utiliser son principal conseiller juridique pour des manœuvres politiques. La loi de 1978 sur l'éthique gouvernementale permet aussi à la justice d'enquêter sur des méfaits en toute indépendance vis-à-vis de la présidence. Merrick Garland l'a utilisé pour désigner l'enquêteur spécial Jack Smith et lui confier l'investigation concernant Donald Trump.
Une telle nomination souligne l'engagement du département en termes d'indépendance et d'imputabilité dans des affaires particulières et sensibles.
Pour l'ancien président, ce n'est qu'une chasse aux sorcières.
Au fil des ans, j'ai fourni des millions et des millions de pages de documents, de feuilles d'impôts et autres, et ils n'y ont rien découvert. Ce qui prouve que je suis l'une des personnes les plus honnêtes et les plus innocentes de tous les temps dans notre pays.
Aucun ancien président n'a été inculpé pour conduite criminelle et beaucoup d'Américains redoutent que cette affaire accentue davantage les divisions politiques. Toutefois, certains observateurs estiment que cela en vaut la peine. William Howell enseigne la politique américaine à l'Université de Chicago.
Il y a au moins la possibilité qu'une véritable indépendance du ministère de la Justice et d'une poursuite minutieuse contre l'ancien président qui, à bien des égards, foulait la loi au pied, ce qui aura pour effet de renforcer l'état de droit et de protéger notre démocratie. C'est le pari que fait le ministère de la Justice.
La commission du 6 janvier recommande que Donald Trump soit inculpé d'assistance ou d'aide à une insurrection, d'obstruction à une procédure officielle, de complot visant à frauder les États-Unis et de complot en vue de faire de fausses déclarations.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
Il y a 3 ans, des scientifiques de Wuhan, en Chine, signalent pour la première fois des infections dues à un nouveau coronavirus. Depuis lors, le monde a mis au point et administré 13 milliards de vaccins contre le Covid-19. C'est une réussite sans précédent, mais elle a été ternie par un accès inégal. Le programme mondial visant à améliorer l'équité en matière de vaccins a annoncé qu'il allait se concentrer sur les pays les plus pauvres. Steve Baragona, de VOA, nous parle de la campagne mondiale de vaccination Covid, alors que la pandémie, responsable de plus de 6,5 millions de décès, entre dans sa 4e année. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
24 février 2021. Une livraison de vaccins Covid-19 arrive au Ghana dans un effort d'équité en matière de vaccins. Anne-Claire Dufay, représentante de l'UNICEF, était là pour les accueillir.
Nous sommes vraiment heureux car ils iront à un grand nombre de bénéficiaires au Ghana. Le Ghana est le premier pays à recevoir les vaccins COVAX.
Le programme COVAX, soutenu par les Nations Unies, avait pour but d'aider les pays à revenus faibles et intermédiaires à accéder aux vaccins après que les pays riches ont acheté la plupart des premiers vaccins. Le programme a dû se battre pour obtenir les doses limitées. Après avoir livré près de 2 milliards de doses, le programme COVAX a réduit son champ d'action pour servir les pays les plus pauvres. Cela en partie parce que 2 ans plus tard, il y a beaucoup de vaccins disponibles. Cependant, tout le monde ne les reçoit pas, selon Krishna Uddikumar, professeur de santé mondiale à l'université Duke.
Les inégalités sont vraiment flagrantes et continues. En Afrique, seuls 25% de la population de l'ensemble du continent sont entièrement vaccinés, contre plus de 75% dans des endroits comme l'Amérique du Sud.
L'offre n'est plus le gros problème, c'est la demande qui l'est. Selon Janine Madan-Keller, spécialiste de la santé au Centre pour le développement global, les habitants des pays à faible revenu ne font pas la queue pour se faire vacciner contre le Covid.
Ce manque de demande est vraiment une tendance inquiétante que nous observons. Les raisons de cette faible demande, je dirais, sont assez complexes et à multiples facettes.
Les informations erronées sur les vaccins sont monnaie courante. La confiance dans les gouvernements qui fournissent ces vaccins est faible. Et beaucoup de personnes dans les pays à faible revenu ne voient pas le Covid comme une menace. De plus, les vaccins ont mis trop de temps à arriver.
Alors qu'il y avait une demande, elle n'a pas été satisfaite. Il est donc raisonnable de constater aujourd'hui une plus grande hésitation, car nous avons manqué le moment où tout le monde était prêt à accepter de se faire vacciner.
Ce retard s'explique en grande partie par le fait que la fabrication des vaccins est concentrée dans quelques pays, pour la plupart riches. Les nations les plus pauvres ont été laissées dans l'attente d'une aide financière, explique Jennifer Nuzo, directrice du centre de pandémie de Brown University.
Je pense que nous devons trouver le moyen de produire ces vaccins de manière beaucoup plus répartie qu'auparavant, afin de ne pas dépendre uniquement des dons. Il est clair que les dons ne fonctionnent pas car face à une crise, les pays choisiront toujours de donner la priorité à leur propre population.
Des efforts sont en cours pour construire davantage de laboratoires pour faire des vaccins en Afrique. Mais leur construction n'est qu'un début. Comment les maintenir en activité à long terme est une autre question, dit Keller.
Qui va acheter ces vaccins? Ou encore, quels sont les vaccins qu'il est judicieux d'un point de vue économique, mais aussi sanitaire, de produire? D'où viendra l'argent pour les payer?
L'Union africaine est confrontée à ces questions alors qu'elle vise à fabriquer 60% de ses vaccins de routine sur le continent d'ici 2040. Le défi consiste à construire une industrie durable capable de gérer à la fois les vaccins ordinaires et l'inévitable prochaine pandémie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.